Chaque samedi, je vous retrouve pour vous présenter des documentaires biographiques de femmes et d'hommes d'exception. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Seule réalisatrice d'après-guerre, elle donna à ses films une tonalité féministe avant que ne surgisse la tornade Agnès Varda. Mais aujourd'hui, Didier Roth-Bettoni et Marie Placet vous proposent Jacqueline Audry, 1908-1977, c'est toute une vie de cinéma transgressif et féministe.
Bonjour Madame le metteur en scène.
Oh non, ne dites pas ça. Madame le metteur en scène, je suis metteur en scène, quoi. Et ça a été très difficile à y arriver, vraiment, très. Enfin, maintenant, je peux dire que je suis metteur en scène.
Et vous n'êtes pas la seule.
Ah, mais heureusement, moi, ça me fait très plaisir dès que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui sont devenues metteurs en scène à la télévision. C'est un plaisir pour moi parce que j'ai tout de même ouvert une porte.
Jacqueline Audry, la disparue du cinéma français.
Et surtout que je compte à peu près au moins 16 ou 17 films en non-actif. J'en aurais fait beaucoup plus si j'avais été un homme d'ailleurs. Parce que chaque film à décrocher, ça a été quand même guerroyé un certain temps.
Mon vrai pauvre Paul, tu n'es pas un homme.
Je ne suis plus une femme.
Mitsou. Ma chère Sophie, voici en deux mots ce que votre famille me confie le soin de vous dire. Préparez-vous à un grand bonheur.
Moi, c'est plafond qui rêve. Un coup de gong dans les oreilles. Une sorte d'apothéose qui m'est due.
J'amène ici des jeunes filles inconnues. Et elles disparaissent. Vous comprenez? Je les tue.
Vous trouvez ça malin? Eh bien, vous n'êtes pas difficile à distraire, hein. La bonne heure.
Alors, faites deux, tu fais ta cour. Oh!
Est-ce parce qu'elle était une femme ayant réussi à s'imposer dans un milieu où il n'y avait que des hommes? Est-ce parce qu'elle ne parlait dans ses films que de femmes audacieuses et sexuellement très libres? Seule réalisatrice de l'après-guerre, adaptatrice à succès de Colette, de Sartre ou de Victor Marguerite, première femme cinéaste à être membre du jury du Festival de Cannes, Jacqueline Audry fut une précurseuse. Dès avant sa mort dans un accident de voiture en 1977, elle a pourtant largement disparu des histoires du cinéma.
En fait, à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux pionnières.
Jackie Buet, directrice du Festival international de films de femmes de Créteil.
Donc j'ai investigué et exploré pratiquement toutes les périodes depuis la naissance du cinéma, en passant donc par Alice Guy, Blacher, Germaine Dulac, plein d'étrangères, des américaines pendant toute une période. Et puis pour revenir aux années 40-50, je suis tombée sur Jacqueline Audry en 83-84 et on a cherché les films parce qu'il fallait trouver les films. Et les films étaient des copies d'archives. Mais c'était aussi une des bagarres du Festival de films de femmes depuis sa naissance en 79. C'est à la fois réinscrire les femmes dans l'histoire du cinéma, la grande histoire du cinéma, montrer qu'elles étaient là depuis les débuts et à toutes les époques, et rendre hommage aux Françaises, bien sûr. Et on est quand même un grand pays de réalisatrices en France, il faut bien le remarquer, y compris aujourd'hui où il y a toute une nouvelle génération. Donc je crois qu'on peut s'enorgueillir d'être un pays de cinéma où les femmes ont forcé et ont mis le pied dans la porte et où il faut leur rendre hommage pour ça. Donc c'est vrai que toutes ces générations de réalisatrices ont nourri notre démarche et notre réflexion pour argumenter dans le sens, oui, les femmes ont souhaité faire du cinéma, oui, elles ont eu le courage de se prendre en main et de se manifester. Par contre, ni la critique, ni les historiens, ni la profession ne les ont reconnues dans un premier temps. Varda, c'est venu assez tardivement, hein. Elle a quand même eu une décoration à Cannes, une palme d'or honorifique. Elle avait déjà 85 ans. Donc c'est quand même un peu du rattrapage, on va dire.
Lorsqu'en 1984, au sein du festival de films de femmes, vous décidez de lui rendre hommage, ça fait 7 ans qu'elle est morte.
Oui.
Quel est l'état du souvenir qu'on a d'elle à ce moment-là?
Elle n'était pas connue du tout. Mais c'est quand même époustouflant de savoir qu'elle a eu des millions de spectateurs. Parce que je la compare un petit peu à Colline Serrault, qui est aussi une réalisatrice assez populaire, connue du grand public. J'imagine, je n'ai pas vraiment de preuves, mais que Jacqueline Audry était populaire, connue d'un assez grand public, puisqu'elle a eu des millions d'entrées. Mais sur la question de l'oubli et de l'effacement, il faut qu'on travaille et qu'on analyse assez finement pourquoi.
Bonjour Jacqueline Audry. Jacqueline Audry, s'il est déjà difficile pour un homme de devenir metteur en scène, je suppose que pour une femme, c'est un peu comme la muraille de Chine pour un maçon. C'était assez difficile.
Ah oui, il y avait des difficultés presque insurmontables.
Et rien ne vous prédestinait dans votre famille à devenir metteur en scène?
Absolument pas. Mon père était dans l'administration, il était préfet. Et ma foi, je ne connaissais absolument personne dans le cinéma. Ah.
Vous êtes la nièce ou la petite nièce d'un ancien président de la République, même, je crois.
Gaston Doumer, oui. Il paraît même que j'en ai un peu le sourire.
Brigitte Rollet, vous êtes la biographe de Jacqueline Audry. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de son univers familial?
Oui, alors c'est la cadette de la famille Audry. Elle est née en 1908. Elle vient d'un milieu qui est assez typique de ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, c'est-à-dire que le père est d'une famille qui, grâce à l'école républicaine, a accédé à des fonctions. C'était un milieu au départ plutôt modeste, mais lui a accédé à des fonctions plus prestigieuses. Il est préfet, donc il est actif au sein de l'administration française. Sa mère est plutôt d'une famille de viticulteurs languedociens, mais bon, ce sont des propriétaires, hein, ce ne sont pas des manœuvres. Donc c'est un milieu qui n'oublie pas ses origines modestes, mais il y a quand même ce grand-oncle président de la République française, donc ça c'est important aussi.
Vous soulignez beaucoup la proximité entre les deux sœurs Audry, Colette donc, qui est née en 1906 je crois, et Jacqueline née en 1908, leur proximité et leur différence en même temps, puisqu'il y en a une qui va être une très brillante étudiante et par ailleurs très engagée politiquement, et une autre qui va être une étudiante très médiocre et qui va faire des choses féministes, engagées, mais sans le dire.
Oui. Mais en même temps, il y a une espèce de complétude entre les deux qui me semble vraiment très intéressante. Parce que Colette ne parle pas nécessairement non plus beaucoup de son féminisme. Ce qui ressort en tout cas des récits autobiographiques de Colette, c'est la proximité des sœurs par rapport aux adultes, en rejet ou en opposition aux adultes, même si elles sont clairement dans des aspirations, des visions de la vie très très différentes. En effet, Colette, c'est les Sévriennes du début, alors que, alors moi j'ai vu dans le Who is Who, on me dit que Jacqueline a fait des études, je n'ai trouvé aucune trace d'aucun diplôme fait par Jacqueline, qui est quelqu'un qui aime le cinéma. Elle a un petit côté... Enfin, je dis ça avec des gros guillemets, mais un peu midinette. Elle va au cinéma, elle va beaucoup au cinéma dans les années 20. Elle veut travailler dans le cinéma, comme beaucoup de femmes à cette époque-là, sans nécessairement avoir une réflexion comme sa sœur. Mais si on regarde leur carrière après, on se rend compte que Colette est toujours plus ou moins là. Il y a un travail quand même proche entre les deux, et elles incarnent chacune une version différente du féminisme, mais qui ne dit pas son nom d'une certaine façon à l'époque. Même si, selon Sylvie Chaperon, qui a écrit sur Beauvoir, c'est au départ Colette qui avait cette idée de ce qui est devenu le deuxième sexe.
Dans ce milieu familial, vous parlez quand même beaucoup du fait que ce soit une famille protestante.
Oui, c'est toujours intéressant de comparer avec les religions dominantes et les personnes issues de ces religions dominantes. Alors on sait aussi en histoire des femmes et en histoire du féminisme à quel point les femmes les plus actives dans ces réseaux étaient souvent issues d'autres religions, que ce soit le protestantisme ou le judaïsme. C'est-à-dire que le catholicisme, religion dominante s'il en est surtout à cette époque, n'est pas non plus une religion qui prône l'émancipation des femmes. Donc en fait, outre que les parents étaient des défenseurs de Dreyfus, donc ça les place politiquement d'un certain côté, et cette dimension protestante et peut-être plus encline à soutenir des initiatives d'émancipation, sachant aussi que s'il y avait eu un garçon chez les Audry, les choses auraient sans doute été très très différentes pour les filles. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit.
Et quand vous êtes rentrée pour la première fois sur un plateau, c'est avec quel patron que vous avez commencé?
Je vais vous dire, d'abord j'ai cru que je voulais être actrice, je dis tout de suite vedette, vous voyez. Je voulais être actrice seulement... parce que je ne croyais qu'il n'y avait que ça dans ce métier-là pour une femme. Mais comme je suis rentrée sur un plateau pour la première fois que j'ai vu quelqu'un tourner, tout de suite le côté réalisation derrière la caméra, ça m'a intéressée. Et quand j'ai travaillé pour la première fois dans un film, ça avait été très difficile parce que je ne connaissais personne dans le milieu. C'est Jean-Paul Pollin qui m'a pris. J'étais le bouche-trou, c'est-à-dire que je tapais les plans, le plan de travail à la machine. Je faisais des courses entre la régie et le plateau. Et de temps en temps, j'apprenais le métier de script.
C'était un programme.
Oui. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans le cinéma plus tard? Parce qu'il pouvait penser que je voulais devenir script, ce qui est un métier en soi d'ailleurs, ou monteuse, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, non, moi ce que je veux faire, je veux être metteur en scène. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est tombé dans un silence. En général, il y a pourtant du bruit sur le plateau, tout le monde a entendu, tout le monde a rigolé, j'étais mortifiée au possible, et je n'ai jamais oublié ça.
Ça ne vous a pas empêché de continuer.
Non, ça ne m'a pas décontenancée à ce point de vue-là, mais je l'ai dit les fois où je l'ai redit dans ma vie de script et d'assistante, et bien j'ai fait attention à qui je disais.
Pour une femme, passer de script girl à assistante réalisatrice dans les années 30, c'est singulier. Les femmes restent en général script girl, parfois elles deviennent monteuses, mais des assistantes réalisatrices, il y en a guère beaucoup.
Clara Laurent, spécialiste du cinéma français classique.
Jacqueline Audry a eu envie d'être réalisatrice dès qu'elle a mis un pied sur un plateau de cinéma. Et ça, pour une jeune femme au début des années 30, ça dénote quand même d'une singularité, d'une capacité à se projeter dans un métier identifié comme masculin. Et réussir à devenir assistante réalisatrice et en plus de réalisateur quand même de renom, Max Ophuls pour le roman de Werther, puis Pabst sur Jeune fille en détresse, ça a été certainement une très bonne école. Et puis, elle a eu cette chance de faire cette école qui a précédé l'IDEC, qui a été fondée donc pendant l'occupation donc à Nice, puisque le cinéma français s'était réfugié largement à Nice, où il y avait les studios La Victorine, donc le CATJC. Et là, elle a pu parfaire sa formation et à partir de là, elle a pu élaborer le scénario des Malheurs de Sophie. Le film n'a pas pu, en tout cas, être réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu qu'elle attende les lendemains de la guerre. Mais on peut dire quand même qu'elle a une carrière... Enfin, c'est très rapide quand même de parvenir à réaliser au bout de... Je veux dire, pour l'époque, bien sûr, au bout de quoi, d'une dizaine d'années, parvenir à réaliser son premier long-métrage de fiction, je veux dire, déjà pour un homme, mais a fortiori pour une femme.
Avec ton rang, mademoiselle veut te parler en son nom et au nôtre, paraît-il.
Ma chère Sophie, voici en deux mots ce que votre famille me confie le soin de vous dire. Préparez-vous à un grand bonheur. Votre oncle et votre tante ont décidé de vous marier à M. Armand Hugon.
De me marier?
Oui. M. Armand Hugon est un jeune homme d'une excellente famille, d'un physique agréable. Sa tenue est parfaite et ses espérances enviables. Soyez heureux.
Mais je ne le connais pas.
Ce sera une occasion de faire connaissance.
Mais je ne l'aime pas.
On ne vous demande pas d'aimer votre fiancé. Ses sentiments seront dus à votre mari.
En fait, l'adaptation chez elle n'est pas du tout synonyme de fidélité à l'œuvre.
Brigitte Rollet.
Et en fait, là, elle est relativement fidèle, si ce n'est qu'elle imagine une suite et qu'elle imagine Sophie devenir adulte et que ça lui permet justement d'inclure un événement historique qui n'est pas du tout dans l'original et puis surtout le mariage arrangé que doit subir Sophie dans sa version. Et chez elle, il me semble que quand il y a des variations par rapport à l'original, c'est toujours dans le but de dire autre chose. Et dans le cas des Malheurs de Sophie, c'est très très fort. Dans les articles de presse que j'ai retrouvés ou Des journalistes vont dire « Oh, comme c'est charmant, une femme qui adapte une autre femme pour une histoire de petite fille. » Donc, il y a ce côté d'attribuer aux femmes la littérature pour la jeunesse, les films pour la jeunesse, enfin, ce qu'on trouve quand même très, très souvent. Et en fait, elle ne dit rien, et puis elle arrive quand même à ses fins en proposant quelque chose. Pour moi, c'est vraiment le film matriciel, c'est-à-dire qu'on y retrouve en germe ou développé tout ce qu'on va retrouver dans ces autres films. Et en particulier, il y a cette question de l'émancipation, mais pour moi, ce qui compte, me semble-t-il, tout autant, c'est l'éducation des filles. C'est surtout un regard très moderne et contemporain sur l'éducation des filles. Et ça, ça se retrouve quel que soit le contexte historique dans lequel son histoire a lieu.
Et nous allons arriver, si vous voulez bien, enfin, un passage très important de votre carrière, c'est votre rencontre avec Colette. Et pourquoi Colette ?
Mais je vais vous dire, je remercie d'ailleurs à ce point de vue-là beaucoup mes parents qui m'ont laissé toujours le choix de mes lectures. Ça a été plus ou moins osé, évidemment, mais enfin, au moins je ne me suis pas cachée pour les lire très jeune. Et je crois que j'ai lu Colette très très tôt. Par exemple, à 12 ans, j'ai dû lire L'ingénue libertine. Vous voyez, c'est un peu tôt. Ouais. Mais ça ne m'a donné qu'une envie, c'est dès que j'ai été metteur en scène, j'ai tellement senti Colette tôt. Ouais. Peut-être, ça a tellement marqué dans une âme jeune. Mmh. Que la première personne que je voulais mettre en scène, c'était du Colette.
Alors, vous réalisez votre rêve d'enfant.
Ah oui. Et ma foi, pendant l'occupation, j'ai lu en feuilleton Gigi.
Oui.
Et j'ai essayé par tous les moyens de le faire.
Ah, Emma, tu t'amuses ?
Oh, je ne sais pas encore.
Ça n'a aucune importance. Pour une fois que tu as une idée, insiste. Il faut vivre avec son temps. D'ailleurs, le sport est à la mode.
Qui c'est, ce trois-là ? Yes.
Le gros monsieur, c'est l'ouvreuse.
L'ouvreuse ?
Oui, monsieur Willy signe ainsi ses critiques musicales. Puis il est avec sa femme, Colette, petite provinciale sans intérêt.
En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on lit, que ce soit ce que dit Jacqueline Audry a posteriori, de la façon dont elle découvre la nouvelle Gigi, puisque c'était paru pendant la guerre sous forme de nouvelle qui s'appelait L'Attardée, si je me souviens bien, on a l'impression vraiment d'une débutante. Et je pense qu'elle a trouvé en Colette une espèce de porte d'entrée.
Tu as des amis ?
Mais non, Tom, tu sais bien, je suis toujours toute seule. Grand-mère me dépend d'accepter toutes les invitations.
Et elle a bien raison. Tu te fais inviter que par des gens ordinaires, c'est inutile.
Mais on n'est pas déjà ordinaires, nous.
Non.
Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires ?
Ils ont la tête faible et le corps dégargoté. En outre, ils sont mariés. Je crois pas que tu comprennes.
Aussi, tante, je comprends. Je comprends que nous ne nous marions pas. Grand-mère, elle n'est pas mariée. Et toi, t'es pas mariée. Maman non plus, elle n'est pas mariée.
Allons, allons. Mais le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin.
Moi, je trouve ces adaptations assez fidèles, à dire vrai. Et j'y vois une forme de respect et d'admiration pour Colette. Il y a un vrai souci d'être au plus proche du texte, mais avec beaucoup d'intelligence.
Frédéric Maget, directeur de la maison de Colette.
Bon. Dans le cas de Gigi, elle était un peu corsetée, puisque Colette était là à la manœuvre et qu'elle écrivait les dialogues. Donc sa part d'intervention était sans doute un peu minorée. Puis c'est vrai que travailler avec Madame Colette, pour reprendre cette expression, sans doute l'obligeait à peut-être moins de liberté. Il suffit de comparer l'adaptation de Gigi et celle de Minelli, absolument superbe, extraordinaire aussi, grand spectacle, mais... par exemple, l'importance des personnages masculins et féminins. Il est clair que Minelli, il a une image qui est l'image américaine de la Belle Époque, du Paris 1900, et qu'on va en rajouter, en surrajouter dans cette imagerie. Tandis que du côté de Jacqueline Audry, comme du côté du texte de Colette, la part du pittoresque et de l'anecdotique est moindre, en fait. Et ce qui est très important, et ce qui est le plus saisissant dans le texte de Colette, et me semble-t-il dans le film de Jacqueline Audry, c'est la communauté féminine. Et là où il y a une grande intelligence de Jacqueline Audry, c'est d'avoir perçu ça au fond des textes. C'est une des meilleures adaptations d'un roman de Colette par un réalisateur ou une réalisatrice, parce que il y a une rencontre tout à fait miraculeuse entre l'auteur, une jeune réalisatrice, une jeune comédienne qui trouve un équilibre. Donc c'est une sorte de petit miracle et de petit bijou.
Alors, ici, évidemment, il y a une question qui se pose. Est-ce que Daniel Delorme, dans le film, répond à la façon dont vous voyez Gigi ?
Oh, Daniel Delorme, voyons. Elle pourrait vous dire, sans mentir, comme moi-même, que le jour où elle a passé mon seuil pour la première fois, non seulement je l'ai accueillie, mais je l'ai reconnue tout de suite. C'était Gigi. Et elle a été saluée du nom qu'elle espérait porter et qu'elle porte à présent. Je lui ai dit tout de suite, bonjour Gigi.
C'est Jacqueline Audry ou est-ce Madame Colette qui vous a choisi ?
C'est Jacqueline Audry, c'est-à-dire c'est Jacqueline Audry d'abord qui m'a vu deux, trois fois, qui a vu une petite scène que j'avais fait dans l'impasse des deux anges, qui a dit que ça pourrait coller. Ensuite on m'a présenté à Colette et puis leur...
Et alors Jacqueline Audry, vraiment c'est elle enfin, à laquelle vous devez votre carrière. Ah, que oui, pensez-vous absolument. De Jacqueline Audry ? Elle vous a fait tourner non seulement Gigi mais l'Ingénue Liberté.
Oh, mais moi je m'entends très très bien avec Jacqueline, elle sent bien ce que je ressens, on a une sensibilité qui colle toutes les deux très bien, enfin, c'est peut-être magnétique, je sais pas, mais en fait ça colle très très bien entre nous. Alors elle savait très très bien me diriger, elle savait comment il fallait faire, quand il fallait me brusquer, ne pas me brusquer, dire ce qu'il fallait, etc. Et je me reposais beaucoup sur elle, quand ça collait pas, je la regardais et ça suffisait, enfin elle savait très très bien me prendre et je la sentais très très bien. Mais pour être très très franche, moi je préfère le rôle de Mine parce que c'est un rôle qui a plus de problèmes et un problème de femme et je
certain.
Suis beaucoup moins candide que Gigi personnellement.
Tu es folle, tu t'en vas ?
Mais oui.
Mais où ?
Mais chez moi.
Mais tu m'avais pas dit que ton mari...
Ah mais Antoine ne rentre qu'à cette terre.
Et alors ?
J'ai plus envie de rester.
Mine, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me quittes ? Je t'ai fait mal. Peut-être que je t'ai fait un peu mal.
Même pas.
Prenons l'autre film, L'ingénue libertine. C'est un roman que même les lecteurs de Colette n'aiment pas tellement.
Frédéric Maget.
Hein, et Colette ne l'aimait pas, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était la dernière collaboration avec Willy. Hein, c'est au départ Mine et les égarements de Mine qu'elle a refondu donc dans ce roman qui s'appelle L'ingénue libertine en 1909. Et pourtant, c'est un ouvrage d'une modernité absolument extraordinaire. Pensons en 1909, poser la question du plaisir sensuel, sexuel de la femme dans le mariage, c'est quand même absolument extraordinaire. Et là encore, c'est une grande intelligence de Jacqueline Audry et une certaine finesse de lecture d'avoir compris comment est-ce que en 1950, on pouvait redonner son sens plein à ce roman qui apparaissait comme daté, en fait. Or, quand on voit l'adaptation, il ne l'est pas.
Quand on regarde le cinéma français de la fin des années 40 et des années 50,
Clara Laurent.
Le plaisir féminin, il en est quasiment jamais question. Savoir si une femme a du plaisir dans sa vie conjugale, c'est vraiment quelque chose qui ne traverse pas du tout l'esprit des scénaristes et des réalisateurs qui sont tous des hommes. Donc de toute évidence, lorsque Jacqueline Audry fait Mine, l'ingénue libertine, qui est une adaptation de Colette, mais lorsqu'elle aborde frontalement cette question de cette jeune femme qui se marie, qui n'a pas de plaisir avec son mari et qui cherche le plaisir, et qui finit par le trouver, c'est évident que c'est quelque chose de tout à fait singulier dans la production de cette époque. Et puis, je pense à une séquence assez ébouriffante où on a, il y a Jean Tissier, Daniel Delorme, deux autres actrices, et qui devisent comme ça sur l'orgasme, avec des métaphores pas toujours très déguisées. Hein, donc, elles en parlent d'une manière extrêmement libre. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait original pour le cinéma de cette époque.
Je vous présente Madame Mine. Cher Polaire, le tango vous fait un drôle d'effet aujourd'hui.
J'aime beaucoup cette danse. Je me sens.
On a compris. Bon, juste le premier.
Oui, c'est mon heure, oui. On ne peut pas s'imaginer ce que je suis brillant entre 5 et 7.
Moi, je serais plutôt du matin. Quoique pourtant, l'après-midi. Le soir, très tard.
Riche nature.
Attendez, Mine n'a rien dit.
Ah, moi, je ne sais pas. Je suis trop petite. Je parlerai après elle.
Moi? Ça dépend de qui. Mais toutes les heures sont aussi bien. Bravo! Vous y allez franchement de votre petite mort, vous, au moins.
Petite mort? Non, ce n'est pas ça. C'est un peu comme quand la balançoire va trop, vous savez. Ça vous coupe en deux et en fait.
Ou bien on dit maman.
Ne riez pas, Magis. Et on recommence.
Ah, on recommence? Oh, bravo pour l'escarpolette.
Colette, il faut savoir, c'est d'abord quelqu'un qui connaissait bien le monde du cinéma. Elle l'a fréquenté très tôt. Mais bien qu'elle ait eu une activité de critique cinématographique, d'ailleurs, elle s'est toujours interdit des discours, des prises de parole critiques, justement. Sans doute parce qu'elle cultivait, notamment à la fin de sa vie, cette image d'écrivaine anti-intellectuelle. Il y a trois choses qui ne me vont pas, les chapeaux, les boucles d'oreilles et les idées générales. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle a pensé de Jacqueline Audry. Je dirais plutôt du bien, parce que elle a finalement encouragé le projet d'abord de Gigi, puis ensuite celui de Mine. Et d'ailleurs, elle fait preuve d'un grand courage aussi, Jacqueline Audry, parce qu'on le sait, à ce moment-là, après-guerre, aucun producteur ne veut plus entendre parler de Colette. Hein. Personne, alors qu'elle avait connu avec le cinéma une relation, disons, passionnée dans les années 30, à ce moment-là, Colette apparaît comme une vieille chose, un peu oubliée, un peu désuète, un peu qui sent un peu la naphtaline, d'un certain point de vue. Et l'intelligence de Jacqueline Audry, c'est d'avoir deviné la première... la nouveauté qu'incarnait Gigi à ce moment-là, et d'avoir tourné son regard vers, non pas Madame Colette, la Colette déjà institutionnalisée d'une certaine façon, mais la Colette des débuts, la Colette Claudine, la Colette Mine, la Colette impertinente, et d'avoir redonné... du peps, en fait, de la vitalité. C'est, là encore, c'est ce que dit très bien Jean Cocteau. Lui, il a toujours eu cette, dans la tête, cette image de la Colette du Paris Lesbos, d'une certaine façon. Et chez Jacqueline Audry, il y a cette volonté aussi d'une Colette un peu interlope, de rétablir cette Colette un peu interlope et de lui redonner son piquant, ce qui est évident, peut-être moins dans Gigi, mais par exemple dans le choix de Mine, voilà, et qui est un choix extrêmement courageux. Donc, Jacqueline Audry, Daniel Delorme doivent beaucoup à Colette, mais Colette leur doit beaucoup, parce que c'est Jacqueline Audry qui va finalement initier un grand mouvement de redécouverte et une nouvelle histoire d'amour du cinéma avec l'œuvre de Colette.
Pendant 5 ans, de 43 à 48, je n'ai pas cessé de venir vous voir de 3 mois en 3 mois pour vous affirmer que j'arriverai à tourner Gigi. Amusée, indulgente devant une folie qui vous paraissait inoffensive et plutôt sympathique. Vous m'avez souri et vous êtes entrée dans le jeu de ce rêve éveillé avec toutefois une pointe de scepticisme. Je n'ai su, hélas, vous parler que de ce que je pourrais faire avec certaines de vos œuvres. Mais je sais néanmoins que dans leur réalisation, vous avez senti la profonde admiration que je vous porte.
Tania Capron, vous êtes médiathécaire à la Cinémathèque française. Vous avez consacré sur le site de la Cinémathèque un long article à Jacqueline Audry en vous plongeant dans les différentes collections, différents espaces de la Cinémathèque. Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans cette quête d'une cinéaste pas forcément mise en avant par la Cinémathèque ?
Alors Jacqueline Audry, c'était un nom que j'avais vu dans les listes des programmations de l'année 2020. C'était quelqu'un sur qui devait se faire une rétrospective en fait. Et donc nous on cherche à la bibliothèque toujours à suivre un petit peu l'actualité de la Cinémathèque et à valoriser les collections, les documents qui sont présents dans nos fonds d'archives, de photos. Et c'est un nom que je connaissais pas du tout. Donc ça m'a un petit peu intriguée parce que, bon, non pas que j'ai la prétention de tout connaître, mais c'est vraiment quelqu'un, quand j'en parlais, personne ne connaissait. Et quand j'ai commencé à creuser un petit peu, à faire des recherches sur elle, j'ai découvert un nombre de documents extrêmement conséquents et j'ai été très surprise de ça parce que c'est vraiment quelqu'un dont on parlait peu. Donc voilà, ça nous a conforté dans l'idée de travailler sur cette réalisatrice et d'aller vraiment chercher qui elle était, comment tous ces documents étaient arrivés chez nous et
et on a quelques pépites qui nous viennent du fond de Daniel Delorme. Donc ça, c'est des choses que on peut regarder ensemble de manière un petit peu plus précise. C'est des choses qui sont très belles. Alors, il faut savoir que Daniel Delorme a été lancé par Jacqueline Audry. Et Daniel Delorme a cette particularité. Elle a des scénarios de tournage qui sont les siens, ces scénarios de travail, qu'elle enrichit. Et nous avons toutes les archives de Daniel Delorme avec ces scénarios enrichis, qui sont des scénarios sur lesquels, comme vous pouvez le voir par exemple ici, elle va à la fois faire des annotations, mais aussi coller des photos de plateau, alors qui au fil des années deviendront des polaroïdes, des photos en couleur. Bon, là, on a encore de la très belle photo en noir
là,
et blanc.
C'est le dossier de
Là, on est sur Mine, l'ingénue libertine. Donc ces dossiers, elle les fait relier et elle y ajoute des photos de toute l'équipe. Et alors là, vous voyez Jacqueline, qui est là, qui est découpée. Pierre Laroche, le gros auteur, comme il le signe. Donc à ma Danielle, à l'ingénue que j'ai rendue libertine, son petit metteur en scène, Jacqueline Audry. Donc là, on voit la petite Danielle Delorme, absolument ravissante, toute charmante, en petite mine, là. Et on a Jacqueline...
En position de puissance, pour le
en
coup.
En position de puissance. Et ça, c'est très, très beau. Oui, voilà, ça me fait plaisir que vous le remarquiez, parce que la disposition elle-même de cette page de titre dit beaucoup de choses. Et aussi, je pense que sur la complicité qui unissait ces deux femmes... L'impression qui s'en dégage quand même en général, c'est de tournage très rieur, dans une atmosphère extrêmement confiante. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu à force de consulter des documents sur les films de Jacqueline Audry, de voir comment les choses s'articulent. On a l'impression vraiment que c'est... les gens sont assez contents, en fait. Je pense que sur Olivia, les femmes devaient être assez contentes de se retrouver entre elles, là, et... Il y a une phrase à un moment du dialogue qui dit « Enfin, ici, on est libre ». Et je me suis toujours dit que peut-être c'était aussi quelque chose qu'elle ressentait.
Elle choisit à chaque fois des héroïnes, enfin en tout cas son héros est une héroïne.
Clara Laurent.
Et à chaque fois, ce sont des femmes qui cherchent à conquérir une forme de liberté. D'une certaine façon, chaque film pourrait avoir pour épigraphe « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc de ce point de vue, oui, il y a quelque chose de spécifique à Jacqueline Audry, de film en film. Elle explore aussi le trouble dans le genre. Je pense évidemment à son adaptation de La Garçonne. Je pense aussi au secret du Chevalier Déon. Donc il y a chez Jacqueline Audry quand même, elle trace un sillon féministe, mais sans tapage, sans trop d'éclat. Enfin, je veux dire, elle sait, comment dire, insinuer comme ça des thématiques féministes sans que ça se voit trop. Quand on regarde Olivia, donc un film de 1950, on voit quoi ? On voit un couple de lesbiennes à la tête d'une pension de jeunes filles et tout le monde a l'air de trouver ça tout à fait... normal, ou en tout cas, ça passe comme une lettre à la poste, hein, que cette institution de jeunes filles, tout à fait huppée, hein, parce que ce sont des jeunes filles de la bonne société, et que ce soit deux femmes, en fait, qui vivent complètement ouvertement toutes les deux, qui soient à la tête de ce pensionnat. Donc là, on est étonné. Alors certes, c'est l'adaptation d'un roman qui avait eu beaucoup de succès, traduit par Roger Martin Dugard. Mais bon, on est quand même étonné que des producteurs aient accepté en 1950, de produire un tel film. Et moi, quand j'ai revu le film, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que Edwige Feuillère, donc est en couple avec Simone Simon, Edwige Feuillère passe son temps à flirter avec ses petites pensionnaires, donc Edwige Feuillère qui a une quarantaine d'années, avec ses petites pensionnaires qui ont 15 ans, 16 ans. Edwige Feuillère est une allumeuse, quoi, dans le film. Elle passe son temps à souffler le chaud et le froid. Et c'est en plus Edwige Feuillère, donc cette grande dame du cinéma français, c'est aussi un monstre sacré de des planches, grande tragédienne. Et c'est Edwige Feuillère, comme ça, qui endosse ce personnage qui, aujourd'hui, reste sulfureux, au fond. Donc, on se dit que Jacqueline Audry a une audace folle hein, de tourner ce film. Mais elle le fait dans de très beaux décors, avec des beaux mouvements de caméra. Et donc, quand on regarde le film comme ça, esthétiquement, on a l'impression d'être dans une belle production soignée de la qualité française de l'époque. Et donc, certainement, à ce moment-là, ça passe mieux. Quoique, parce que dans les mémoires d'Edwige Feuillère, j'ai le souvenir qu'elle raconte que son tapissier lui dit « Madame Feuillère, si je peux plus envoyer mes filles voir des films de Madame Feuillère, où allons-nous ? » Alors elle lui dit « Mais enfin, si je joue une criminelle, vous n'y voyez pas de problème. » Et lui dit « Oui, mais le meurtre, c'est propre, au moins. » Voilà, ça prouve que quand même, à l'époque, ça choquait quand même les consciences.
Notre belle Cécile, vous êtes la reine du bal, chère Amérique. Lafayette savait ce qu'il faisait. Tournez-vous un peu, on vous admire. Eh bien, Olivia, es-tu jalouse de tant de beauté? Toi, tu ne seras jamais tout à fait belle, non, mais tu as ta part. Un joli regard. Une jolie bouche, un joli corps, beaucoup de grâce, Olivia, ce qui est parfois préférable. Mais si l'envie me prenait de vous embrasser, charmante à tout, comment ferais-je avec tous ces voiles? Pense que je te dis inscrit. Je viendrai ce soir. Je t'apporterai des bonbons.
Il me semble, par rapport à la réception de ces films, qu'à partir d'Olivia, qu'elle a fait, je pense, parce qu'elle a eu le succès qu'elle a eu avec les adaptations de Colette, en particulier Gigi et Mine, et que là, elle pouvait se permettre de faire ce film. Mais que là, on le voit hein, dans la réception, elle est peut-être allée, pour certains, un peu trop loin. Tant qu'on montre des femmes dans des films Belle Époque, dans des dessous affriolants, ça va, parce que le public masculin, il trouve son compte. Avec Olivia, on n'est pas du tout là-dedans. Un public féminin peut s'y retrouver plus facilement qu'un public masculin, puisqu'il n'y a pas, justement, d'autres hommes dans la narration. Et je pense que pour un public masculin, ça devait être impensable à l'époque. Et je pense encore aujourd'hui, ça reste quelque chose de difficile, parce que c'est pas du tout quelque chose auquel le public masculin s'est habitué. Il y a toujours au moins un homme, c'est plutôt les femmes qui sont minoritaires.
Brigitte Rollet, vous diriez quand même que le cinéma de Jacqueline Audry est un peu précurseur de ce regard féminin, de ce female gaze dont on parle beaucoup aujourd'hui?
Pour Audry, en fait, quand on regarde dans ses films, on ne peut pas réellement parler systématiquement de l'imposition de la subjectivité par le regard, qui est pour moi une des grandes différences entre les cinéastes après 68 et les femmes. En tout cas, leur cinéma, ce cinéma qui change, c'est dès lors qu'elles permettent à leurs personnages féminins, par le regard, d'accéder à la subjectivité. Chez Audry, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans une construction des regards qui passerait par le montage et qui donnerait un pouvoir aux personnages féminins. Mais, ceci étant dit, on trouve des exemples dans Mine, avec ces scènes avec ses amants et cette façon dont elle construit le regard, même si c'est pas de façon classique chant contre chant hein, nécessairement, mais le fait est que c'est quand même Daniel Delorme qui regarde cet amant éclairé comme une femme avec qui elle est à moitié nue dans une chambre. Donc de même dans Mitsu, dans une scène que j'aime beaucoup, il va y avoir un cadrage du miroir dans lequel Mitsu se regarde, dans lequel on voit les hommes cadrés dans les placards dans lesquels ils se sont cachés. Donc il y a quand même un travail sur le cadre et un travail sur le regard, mais en même temps, on n'est pas dans ce qu'on va trouver, par exemple, chez Varda, en particulier dans Cléo de 5 à 7, dans la deuxième moitié du film, où là, il y a une volonté de démontrer cet accès à la subjectivité. Ceci étant dit, le fait, en effet, que les personnages soient vraiment pivot dans l'histoire, font que implicitement ils sont porteurs du regard.
Bravo. Bravo. Alors on lui apprendra à vous la rendre service, moi, tiens. Parce que t'es comme les autres malgré tes grands airs. Et je voudrais bien savoir ton âge. Tiens.
Alors Pezzo, il te fait ta cour? Oh! Hein? Quoi?
Eh bien, je peux monter?
Le petit matin, ce film de 1962, dont le titre original est Mademoiselle Stop, sous-titré Les petits matins, donc Mademoiselle Stop parce que son personnage principal est une jeune femme qui fait du stop. Quand on le regarde, on se dit que Jacqueline Audry veut faire un film qui s'inscrit dans cette nouvelle esthétique de la nouvelle vague. Elle sort des studios. Elle a une héroïne qui est incarnée par une actrice qui est une inconnue, qui sera d'ailleurs l'actrice d'un seul film, qui est Agathe Hems. Et cette jeune femme, elle a un style de jeu très nouvelle vague, une espèce de naturel. Alors, de naturel, c'est le naturel est très relatif. Hein, c'est un naturel très nouvelle vague, voilà, début des années 60. Et ce qui est frappant, c'est que cette jeune femme va passer son temps à croiser de grandes vedettes masculines de l'époque. Et c'est même ahurissant le nombre de vedettes masculines que Jacqueline Audry a réussi à embaucher pour ce film. Elle a Pierre Brasseur, Lino Ventura, François Perrier, Daniel Gélin, Noël, Gilbert Bécaud. Voilà, c'est et j'en oublie, hein.
Il y a longtemps que vous le connaissez?
Qui ça?
Eh ben le mec, là, votre ami Cyrano.
C'est un camarade de tournée.
Et vous l'avez à la bonne?
Bon, vous savez, dans notre métier, hein, il s'est trouvé le bon moment, quoi. Chose qui a si peu d'importance. On a fait ça en copain.
Ouais, en copain. Ah, c'est tout de même marrant.
Pourquoi pas?
Et pourquoi?
Bon, vous savez, si vous avez envie de m'embrasser, vous pouvez. Cyrano, c'est un truc qu'on s'embrasse tout le temps.
Quand on regarde aujourd'hui les petits matins, on est très intéressé parce qu'au fond, ce film rencontre des problématiques qui sont brûlantes d'actualité. C'est-à-dire, on peut regarder ce film avec les lunettes MeToo, en voyant finalement une toute jeune femme, elle a 18 ans, qui passe son temps à subir du harcèlement de rue. Les hommes n'ont qu'une idée en tête, c'est essayer de l'embrasser, on lui vole des baisers, elle subit des attouchements. Donc on est vraiment très très, comment dirais-je, étonné de voir sa façon de réagir. C'est-à-dire qu'elle a, elle donne le sentiment qu'elle a vraiment l'habitude d'être traitée comme ça, et que ma foi, c'est un mauvais moment à passer, mais que ça la traumatise pas plus que ça. Et puis, ça c'est au début, puis alors à d'autres moments elle devient un peu effrontée. Il y a une séquence qui est très curieuse avec Lino Ventura où elle se met à lui raconter ses histoires de coucherie. On a l'impression qu'elle est en train de le chauffer carrément, et donc lui au bout d'un moment il n'y tient plus, donc il essaye comme ça de l'embrasser un peu brutalement pour finir par rapidement se raviser en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive. Donc elle est un petit peu déçue. Donc c'est un personnage qu'on a vraiment du mal à cerner, cette héroïne des petits matins. Et ce qui est frappant, c'est que malgré tout, c'est une jeune femme qui veut circuler librement. Et ça, c'est aussi une problématique qui paraît très actuelle, très contemporaine, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la difficulté pour les femmes à circuler librement dans l'espace urbain. Bon, et là, ce personnage, dans Les petits matins, elle veut pouvoir circuler en France librement et en accueillant en fait les rencontres avec une liberté qui paraît pour 1962 quand même très très singulière.
Jacqueline Audry, qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement avec Les petits matins? C'est un film sur l'autostop?
Oui, c'est un film de stop, mais c'est surtout aussi l'histoire du destin d'une fille qui au fond commence assez tristement l'existence et qui, ma foi, grâce au stop, va connaître la vie et l'amour.
Oui, c'est-à-dire que le stop, c'est un moyen de circulation, si vous voyez que c'est un bon révélateur pour connaître une société, peut-être.
Mais oui, parce qu'on rencontre énormément de gens et de toutes sortes de métiers, de caractères. Et pour quelqu'un de très jeune, mon Dieu, ça apprend beaucoup de choses.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le sujet?
C'est le destin de cette fille. Moi, vous savez que j'aime toujours les destins féminins et qui arrivent, à force de volonté, à sortir de leur ornière, si on peut dire, à sortir de leur univers et à réussir d'une façon ou d'une autre dans la vie.
Clara Laurent, j'ai sous les yeux une citation d'une interview de Jacqueline Audry en 61 où elle parle de la Nouvelle Vague, justement, et des femmes dans les films de la Nouvelle Vague, où elle dit « Je reprocherai la place minime accordée aux femmes dans leur société, un peu le swapping-up et tais-toi. Les garçons sont si nombreux à vouloir réussir qu'ils se serrent férocement les coudes pour ne laisser filtrer aucune fille dans leur rang. Même dans leurs films, les filles n'ont aucun caractère. C'est plus prudent, juge-t-il sûrement. »
Il y a effectivement peut-être chez Jacqueline Audry l'envie de proposer une féminité alternative à ces films de la Nouvelle Vague qui, au fond, peut-être Truffaut mis à part, mais Truffaut, c'est souvent la jeune femme fatale, hein, donc je trouve moins misogyne que Godard, en tout cas à cette époque-là. Oui, c'est sûr que Jacqueline Audry propose avec ce personnage des Petits Matins, un personnage de femme beaucoup plus libre que ses confrères de l'époque.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaye de la cataloguer dans des films pour les femmes, en fait.
Tania Capron.
Et on n'en parle pas tellement comme d'un cinéma féministe. Et puis après, bon, la presse qui va suivre avec la Nouvelle Vague la dégomme, là aussi, en passant à la trappe tout cet aspect-là. Et moi, ça m'avait quand même beaucoup intriguée. Alors, Éric Rohmer, il écrit sur la garçonne. Sa titre, « Indécent et médiocre », c'est un article de Art du 17 mai 1957. Donc, le dernier film de Jacqueline Audry a tous les défauts de Mitsou, mais aucune de ses qualités. N'accablons point André Debar, donc André Debar qui joue le rôle de la garçonne, le rôle principal, aussi mal à l'aise que possible dans son rôle. Ce malaise est sans doute voulu. Si l'art de la mise en scène consiste à créer un climat, affubler tous ses personnages d'un air de famille évident, rendons à Madame Jacqueline Audry cette justice qu'elle ne déshonore pas son sexe en se postant derrière la caméra. Mais comme telle ou telle de ses consoeurs romancières, elle nous présente un revers de la médaille qui manque déplaisamment de vergogne et de plus ne nous apprend strictement rien, étant fait de ce que les auteurs masculins mettent généralement entre parenthèses, parce qu'allant de soi. Cette obscénité morose, cette chair triste, cette veulerie ordinaire, du ton, manque même du relief qu'aurait pu leur donner un pédéraste. Même un pédéraste aurait fait mieux. Alors, donc là, on est sur Mitsou. Alors là, on est toujours dans Art. Nous sommes toujours en 1957. Donc là, Éric Rohmer écrit sur Mitsou. Mitsou, encore la Belle Époque. Bon, c'est le troisième film Belle Époque, adapté de Colette de Jacqueline Audry. Donc, il introduit les choses. J'avais gardé un très mauvais souvenir des premiers films de Jacqueline Audry. Gigi, et surtout Olivia, et Huis Clos. Œuvre plate, ennuyeuse, languissamment jouée, très maladroitement mise en scène. Mitsou ne saurait encourir aucun de ses reproches. Le style de notre réalisatrice, quel est le féminin de metteur en scène, dit-il entre parenthèses, a gagné en vigueur, sinon en originalité. Bien sûr, c'est encore la Colette du pauvre. Daniel Delorme joue ici son meilleur rôle, avec une impudeur digne de son personnage. Elle pleurniche, tout saute, crache, bave devant la caméra, exhibe sans peur ses charmes malingres, promène son sempiternel air de chien battu. C'est confondant.
Vous écrivez, Brigitte Rollet, dans votre livre sur Jacqueline Audry, cette formule que je trouve assez forte et assez juste, « Avant Jacqueline Audry, jamais la question du sexe de l'œuvre filmique et de l'auteur ne s'était posée et n'avait été posée de manière aussi récurrente, obsédante même. » C'est quelque chose qui vous a frappé dans la lecture des recensions des films d'Audry ou...
Oui, mais ce qui m'a frappé, il y avait deux choses qui m'ont frappé parce que j'ai quand même eu accès à énormément de coupures de presse. Parce qu'il y a énormément d'articles qui existent sur elle, qui rendent sa disparition encore moins compréhensible. Mais le lien entre son activité et le fait que c'est une femme revient de façon, oui, je trouve, obsédante. C'est-à-dire que il semble pour certains et certaines qu'il est difficile d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incapacité à penser autrement Audrey qu'une femme qui fait du cinéma. En plus, c'est une femme qui fait 1m50. Et alors, l'autre chose qui revient à part sa taille, c'est le fait qu'elle est toujours en pantalon. Tous les journalistes de l'époque vont dire « elle est en pantalon ». Comme si c'était, enfin, je sais pas moi, comme si elle avait un nez rouge ou un faux nez ou une perruque de clown. On sent que il y a une et elle fume des cigares, enfin des petits. Donc là, on est dans quelque chose qui est quand même louche. Comment nommer cette chose, cette créature? Il y a un peu de ça chez certains journalistes.
Comment vous expliquez le fait que Jacqueline Audry n'ait pas été récupérée justement par les féministes dans les années 70, par les autres femmes cinéastes?
C'est une bonne question. En fait, je me demande si la génération des baby-boomers, baby-boomeuses en l'occurrence, celles qui grandissent dans les années 70, elles n'ont pas nécessairement vu les films d'Audry. Et je pense que pour cette génération, le cinéma d'Audry pouvait sembler, à part peut-être Les Petits Matins, qui est son seul film contemporain quand même, des trucs à costume pour leurs parents, peut-être. Plutôt quelque chose dans le format, ce qui, je pense, est une erreur totale d'appréciation. Mais on peut imaginer ce qu'on sait de la jeunesse, qui est une catégorie quand même qui, économiquement et socialement, émerge avec la nouvelle vague. Donc ces films, je pense, pour cette génération de femmes étaient inconnus, et s'ils avaient été connus, n'auraient pas nécessairement été reçus comme étant féministes. Et d'ailleurs, on voit dans les archives, c'est à Aujourd'hui Madame qu'il y a, est-ce que c'est Amy Breton ou Charles Ford, un des deux qui a écrit un chapitre sur Audrey, et il est entouré de réalisatrices. Il y a Nadine Trintignant, il y a est-ce que c'est Compagnès qui est à côté, etc. Il leur parle d'Audrey. C'est des femmes qui est vraiment tout à fait le profil des baby-boomers comme ça, et elles n'ont vraiment jamais entendu parler. Donc ça montre bien, je ne crois pas à la grande conspiration qu'on a voulu faire disparaître les traces d'Audrey. Je pense de toute façon que ces films ne circulaient pas. Comment peut-on connaître autrement ces films? Moi, je ne les aurais pas vus à Créteil, quand ils ont été montrés en 84 ou 85. J'aurais peut-être mis plus de temps à connaître le cinéma d'Audrey.
L'arrivée de la nouvelle vague a balayé le cinéma dit de papa, y compris certains réalisateurs comme Verneuil, hein, qui sont des réalisateurs quand même très importants, Jacqueline Audry et beaucoup d'autres.
Jackie Buet.
Donc c'est vrai que la bande de la nouvelle vague, la bande des cahiers, a occupé le territoire et a clôturé quand même la parole de beaucoup d'autres cinéastes. Mais ça, c'est pas seulement un argument, parce que ce qu'on pourrait remarquer du côté des femmes, c'est qu'elles n'ont pas fait de bande, elles n'ont pas fait de mouvement. Il y a eu un mouvement des femmes. Il y a eu le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Il n'y a pas eu de vague des femmes. Il n'y a pas eu de regroupement, on va dire, pour se protéger, pour prendre de la force, ni aujourd'hui. Donc c'est un cinéma extrêmement individualisé, extrêmement personnel. Jacqueline Audry, elle a choisi un cinéma qui met en scène des portraits de femmes, d'ailleurs extrêmement variés, mais toujours du côté de l'émancipation. Les personnages de femmes qu'elle a mis en scène sont absolument d'une très grande actualité, très grande originalité, très grande force. Et quand elle met en scène des femmes homosexuelles, quand même, ça défrise énormément. Et c'est pas pour moi un cinéma de papa, c'est un cinéma d'avant-garde. Mais il faut l'analyser finement. Donc aujourd'hui, Céline Sciamma fait un film qui est encensé. Jacqueline Audry a fait des démarches que je trouve beaucoup plus méritantes, si on voulait reconnaître son talent qui, effectivement, manque dans nos anthologies de cinéma. Donc j'aimerais bien les rapprocher, d'ailleurs, toutes les deux, ça serait intéressant d'interviewer peut-être Céline Sciamma pour savoir si elle connaît quelques antécédents sur mettre en scène des amours lesbiens et voir ce qu'elle en penserait. Ce serait hyper intéressant. Mais c'est vrai que le rôle de la critique est essentiel dans la démarche des réalisatrices. Et quand il n'y a pas cet accompagnement vraiment profond de la critique sur un auteur ou une auteuse ou une autrice, c'est difficile hein, d'exister dans les marges. Et malgré son succès, malgré la profusion de son cinéma et la qualité de son cinéma, il n'y a pas eu cette reconnaissance critique. Et en France, on est quand même un pays où la critique est très importante. Donc c'est une école, la critique chez nous, c'est la référence pour les films. S'il n'y a pas de critique, il n'y a pas de film. C'est ça qui est tragique, quoi.
Et vous avez sous les yeux un numéro des cahiers du cinéma, une histoire des réalisatrices. Et quelle est la place de Jacqueline Audry dans ce...
Elle n'est pas citée. Non, mais j'ai cherché, hein. je n'y croyais pas. Je n'en croyais pas mes yeux. Donc, on saute pour les années 30 de Leni Riefenstahl, Dorothy Arzner, pour les années 40 à Ida Lupino, Edith Calmar, Maya de Rennes et Agnès Varda. Toutes ces réalisatrices, on les a honorées à Créteil et Jacqueline Audry ne figure pas. Là, il faudrait leur demander, puisque maintenant il y a une nouvelle équipe, de faire un numéro spécial sur Jacqueline Audry. Voilà, je passe le message. Il y a de la matière.
Hein. Oui, il y a de quoi faire.
Extraordinaire, il y a de quoi faire.
Le regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec, oui, voici la garçonne.
Jacqueline Audry, la disparue du cinéma français. Avec Jackie Buet, directrice du Festival international de films de femmes de Créteil, Brigitte Rollet, autrice de Jacqueline Audry, La femme à la caméra, Clara Laurent, spécialiste du cinéma français classique, Frédéric Maget, directeur de la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, et Tania Capron, médiathécaire à la Cinémathèque française. Archivina, Isabelle Fort-Rendu, prise de son, Nicolas Mathias, mixage Pierre Monteil, coordination Christine Bernard, réalisation Marie Placet, un documentaire de Didier Rodbétoni.
Que la femme relève et les yeux et le front, il est temps qu'elle brave toute moralité et ne soit plus l'esclave que de sa liberté.
Le mot « metteur en scène » peut-il se mettre au féminin? Je réponds immédiatement non, quitte à vous suffoquer, ce n'est pas nécessaire. Les artistes et les intellectuels sont des êtres qui se doivent par leur fonction même de développer conjointement en eux, dans la limite du possible, leur sensibilité masculine aussi bien que féminine. C'est cette complexité qui donne de l'intérêt aux êtres.
La joie de la garçonne, elle n'admet pas qu'entre deux bras on emprisonne son cœur ici-bas. Suivant son goût, elle rit de tout. Elle ne veut surtout dépendre de personne. Changer de danseur, voilà son vrai bonheur.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr. Une page préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet.